Derville d'être travaillé sur pas mal d'éléments. Il avait des contacts en Afrique, il avait des contacts en Amérique du Sud, il avait des contacts surtout en Suisse, aussi bien avec les autorités suisses, le contre-espionnage suisse, qu'avec des éléments français aussi. Donc c'était un personnage qui partait tout azimut.
L'affaire a été baptisée par la presse le mystère de la chambre forte. Pierre Wilde, directeur d'un laboratoire d'analyse médicale de Mulhouse, est mort le 13 février 1987 d'une balle dans la nuque à l'intérieur de la chambre forte de sa chic villa du quartier du Rehberg. Une fois son associé Michel Meyer mis hors de cause, cette affaire longtemps cantonnée à l'Alsace prend soudain une dimension internationale, dont les enjeux vont rapidement dépasser les principaux protagonistes de ce dossier, à savoir le juge d'instruction Germain Sangelin et notre confrère du journal L'Alsace Jean-Marie Sturkel, que l'on vient d'entendre. Dans ce second épisode du meurtre de la chambre forte, il sera question d'un mystérieux informateur, d'une jeune et tenace journaliste parisienne, d'argent et de France-Afrique. Une piste qui mène tout droit à Michel Barouin, homme d'une importance politique et financière considérable jusqu'à sa mort dans un crash d'avion au Cameroun dans la nuit du 4 au 5 février 1987. Mais que vient faire Pierre Wilde, le Mulhousien, dans cette histoire ? Sans coupable, Emmanuel Viau.
Céline Rousseau.
Céline, tu nous avais laissé, je dois dire, sur un suspense vraiment insoutenable à la fin du premier épisode. Et malgré mon insistance, d'ailleurs, tu n'avais rien lâché.
Non.
T'es fière de ça ?
Fière, non. Mais bon, il faut aussi que je te recadre un peu de temps en temps. Sinon.
Sinon quoi ?
Bah, sinon, ça part dans tous les sens.
C'est vrai que j'ai parfois tendance à vouloir accélérer un peu.
Parfois.
Mets ça sur le compte de l'enthousiasme.
Mais oui, allez, là on a fait une bonne pause, tu peux relancer ton enthousiasme.
Bah, tant mieux, parce que là j'ai hâte de connaître le nom du mystérieux informateur que tu as évoqué.
Ah, mais tu vas devoir patienter encore un peu.
Ah.
D'abord, on raccroche un peu les wagons.
Chouchou.
Allez, chouchou, tu vas pas faire la tête maintenant. Bon, je résume. L'affaire Pierre Wilde était déjà assez mystérieuse comme ça, puisqu'on l'a retrouvé mort d'une balle dans la nuque à l'intérieur de sa chambre forte, fermée, et devant son coffre-fort, aux côtés de son chien, gravement blessé. Son associé Michel Meyer, longtemps soupçonné à tort, a été blanchi. Et à ce moment-là, le juge d'instruction Germain Sangelin, qui n'a d'ailleurs jamais été vraiment convaincu de sa culpabilité, explore d'autres pistes.
Il a compris qu'on lui avait livré un coupable sur un plateau. Bien résumé Céline, mais il manque quand même un élément important dans ton histoire.
Oh, tu vas pas me parler du chien encore.
Est-il là ? Non, laisse tranquille lui. Je vais plutôt parler des flux financiers.
Bah, figure-toi que j'allais y venir. Ah, t'as mis la musique, parfait.
Bah oui, ça le vaut.
Oui, c'est vrai. Alors, je te rappelle que le juge Sangelin, dès le début de cette histoire, avait évoqué une affaire criminelle de dimension exceptionnelle, intercontinentale. Il avait découvert que Pierre Wilde avait investi dans de nombreuses sociétés, en France et à l'étranger, dans les transports.
Notamment la société .R de son ami Maurice Freund.
Exactement, mais aussi dans l'immobilier. Le juge avait parlé d'activités avouables, d'autres non avouables, jusqu'à des actions spéciales au profit de services de renseignement français et étrangers.
Ah, et là je comprends qu'enfin entre en scène ton informateur, Céline.
En plein dans le mille, Emmanuel, t'es content ?
Très. Alors c'est maintenant qu'on va connaître son nom.
Il s'appelle Paul Baril.
Ah, ça me dit quelque chose.
C'est probable. L'homme a trempé dans toutes sortes d'histoires depuis qu'il a quitté son emploi dans la gendarmerie au début des années 80. Il était l'un des fondateurs du GIGN.
Ah, carrément.
Oui, et accessoirement, ceinture noire de karaté, parachutiste confirmé, nageur de combat et tireur d'élite.
Pas un temps, moi.
Non, et d'ailleurs, il s'est reconverti dans la sécurité privée.
Barbouze.
Et même l'un des plus célèbres. Et il ne s'en cachait d'ailleurs pas vraiment, puisqu'il a publié lui-même plusieurs livres dévoilant de soi-disant secrets d'État. En 1984, il a fondé sa propre société au nom très évocateur.
Ah ouais, du genre Barbouze & Co.
Non, mais presque. Elle s'appelle Secret.
Bah, t'es sérieuse ?
Non, on ne peut plus.
Bah, du coup, c'est lui qui est pas sérieux.
Et pourtant, il l'est.
Enfin, quand tu veux garder des choses secrètes, t'appelles pas ta société Secret.
Oui, et c'est pas le moindre des paradoxes de cet homme, mêlé de près ou de loin à de retentissantes affaires politiques, mais qui n'hésite pourtant pas à s'afficher régulièrement dans la presse et les librairies.
Alors, on doit savoir plein de choses sur lui.
Alors, des choses qu'il a dites, oui. Des choses vraies, c'est à voir. Pour ça, on peut se fier beaucoup plus à ce que la justice a pu lui reprocher au fil des ans.
Des activités peu recommandables, donc.
C'est le moins qu'on puisse dire. Son nom est notamment lié au génocide des Tutsis au Rwanda, parce que sa société aurait signé en 1994 un contrat d'assistance militaire avec le gouvernement rwandais.
De graves accusations.
Oui, on l'a soupçonné aussi de blanchiment d'argent, d'association de malfaiteurs en vue de la commission d'extorsion en bande organisée, en vue de la commission d'assassinat et en vue de la commission de corruption. Mais il n'a jamais été vraiment inquiété. Il a toujours pu échapper à la justice, à part une condamnation à du sursis pour recel de documents dans l'affaire des écoutes de l'Élysée en 2007.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bon, ok, mais que vient faire Paul Maril dans notre histoire ?
Eh bien, en 1993, il prend contact avec le journaliste Jean-Marie Störkel. Écoutons-le nous raconter comment ça s'est passé.
Je connaissais Paul Maril depuis 1981, et un jour, Paul m'appelle en me disant « Est-ce que tu connais l'affaire Pierre Wilde ?» Je lui dis « Je connais Oscar Wilde, mais à Milo, c'est Pierre Wilde. » J'en ai parlé à Saint-Jean, qui me dit « Bah écoutez, il faut qu'on se voit. » Dit à Barry de venir. Alors, on se retrouvait un jour à Mulhouse. À ce moment-là, Barry nous apprend que Michel Barouin était à Mulhouse fin janvier 87 avec Lucette Michel-Chevry, qui était ministre de la Francophonie. Donc, ils sont venus à Mulhouse, chez Wilde, fin janvier. Une semaine après, Michel Barouin meurt dans un accident d'avion et Pierre Wilde meurt, lui, 8 jours après. Personne n'avait fait le lien. Le lien, c'est Barry qui nous le fait.
Oh là, ça fait beaucoup d'informations d'un coup, là.
Mais non, c'est simple.
Pour toi qui connais le dossier par cœur, oui, mais pour moi...
Ok, bah, qu'est-ce qui te chiffonne ?
Déjà, Michel Barouin, c'est le père de François Barouin.
Bravo.
Je suis assez fort au jeu de cette famille.
Oui, c'était surtout à l'époque l'un des hommes les plus puissants de France. Sa mort dans un accident d'avion, dans la nuit du 4 au 5 février 1987, avait été largement médiatisée.
Et ça, c'est quelques jours seulement après être venu rendre visite à Pierreville à Mulhouse, comme l'a dit Jean-Marie Störkel.
8 jours après, exactement.
Et on sait pourquoi il y a eu ce rendez-vous. Ce genre de personnage se déplace pas pour rien d'habitude.
En effet, mais rien n'a filtré sur ce qui a été dit ce jour-là. On sait seulement que Michel Barouin était accompagné de Lucette Michaud-Chevry, la secrétaire d'État à la francophonie, une très proche de Jacques Chirac.
Lucette Michaud-Chevry, qui a connu par la suite son lot de
Parfaitement. L'information de cette rencontre en janvier 1987 a été confirmée, des années plus tard, par des gendarmes de la brigade de Mulhouse qui avaient servi d'escorte.
Donc si je comprends bien Céline, Michel Barouin rencontre Pierreville à Mulhouse. 8 jours après, il décède et encore 8 jours après, c'est Pierreville qui meurt.
Tu as tout compris Emmanuel.
Ah, c'est troublant.
Très troublant.
Oui, en même temps, c'est en réalité qu'une succession de dates.
Oui, mais qui relance l'enquête. Le juge Sangelin va désormais creuser la piste financière en lien avec les activités communes de Pierreville et Michel Barouin.
Pour ceux qui suivent cette affaire depuis le tout début, c'est un peu le vertige. On parle de flux financiers internationaux.
Dont il avait été question dès le début d'ailleurs.
Oui, et on parle maintenant aussi de personnages très connus.
Et surtout, toute l'affaire commence à faire sens.
Suivez l'argent, Céline.
Exactement, Emmanuel.
Ok, mais attends, je suis un peu perdu là.
Pour une fois que c'est toi qui demande de ralentir.
Ah ouais, je peux aussi être rigoureux et précis quand il faut, madame.
Je n'en doute pas, monsieur.
Alors, si on reprend un peu le fil de ce que Jean-Marie Störkel nous disait, il est question d'un certain Pétria.
Oui, Paul Baril se présente comme le garde du corps de Jean-Louis Pétria, le PDG de la GMF, la garantie mutuelle des fonctionnaires. Un empire financier qui a développé de multiples activités sous son précédent président.
Michel Barouin.
Bravo.
Ah là, c'était pas difficile.
C'est toi qui le dis.
Donc l'enquête s'engage maintenant sur la piste Barouin.
Et on découvre là un personnage assez éloigné des idéaux humanistes qu'il aimait afficher en public.
Et maintenant, j'aime bien la musique. Je me souviens que la mort de Michel Barouin avait fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup de gens n'avaient pas cru à la thèse officielle de l'accident. Revenons quand même sur les faits, hein, Céline.
Quand il s'apprête à décoller de l'aérodrome de Brazzaville, en République du Congo, vers 22h45, Michel Barouin vient de rencontrer le président Denis Sassou Nguesso.
Pour les affaires de la GMF.
Alors, pas tout à fait, mais la mutuelle, avec ses multiples activités, était la couverture idéale pour parcourir du pays et rencontrer les chefs d'État. Mmh. On ne sait pas de quoi il a été question pendant ce séjour en République du Congo. Des rumeurs parlent d'une mission sollicitée par Jacques Chirac, alors Premier ministre, ou par le président François Mitterrand, ou même par les deux.
Ah oui, la commutation, c'était compliqué.
Toujours est-il que l'avion s'est écrasé peu après le décollage. Les 8 passagers et les 2 membres d'équipage meurent sur le coup. Ces derniers étaient pourtant expérimentés et l'avion en bon état.
Louche.
Assurément. La boîte noire parviendra finalement en France par des chemins détournés, mais les derniers instants de l'enregistrement ont été effacés. L'enquête conclut à une vague panne électrique.
Vague, ça l'est en effet.
Oui.
Depuis, on n'a jamais su ce qui s'est passé.
Non, sabotage, attentat, il y a eu bien des supputations, mais on ne saura jamais le fin mot de l'histoire.
Et pourquoi aurait-on voulu éliminer Barouin ?
Michel Barouin, c'était pas n'importe qui. Hein. Il occupait des fonctions officieuses qui excédaient de loin son poste bien en vue de PDG de la GMF.
Des fonctions secrètes ?
Je veux d'abord retracer son parcours pour mieux comprendre le personnage. Jeune, il fréquente Sciences Po où il fait la connaissance de Michel Rocard et Jacques Chirac.
Déjà un bon carnet d'adresse des deux côtés de l'échiquier politique.
Belle image.
Merci.
Michel Barouin était, c'est vrai, un peu joueur d'échecs, mais c'était aussi un homme d'action. Contrairement aux deux autres, il ne fera pas l'ENA, mais deviendra commissaire de police. Pour son premier poste, il est affecté en Algérie. Algérie.
En pleine guerre.
Voilà, là, il se fait remarquer pour son talent de négociateur. Et puis en 1959, il passe aux renseignements généraux, ensuite rapidement à la DST, la direction de la surveillance du territoire.
Contre-espionnage.
Oui, dans ce cadre, il était considéré naturellement comme un spécialiste des missions en Afrique du Nord. C'est à cette époque aussi qu'il rejoint la franc-maçonnerie au sein du Grand Orient de France, dont il sera élu grand maître en 1977 et 78.
Qu'est-ce que ça a à voir avec l'histoire, ça ?
Eh bien, c'est un premier lien avec Pierreville.
Ah bon ?
Mais oui, tu te souviens le soir où il avait rendez-vous avec son associé ? Il devait se rendre à une réunion d'une loge maçonnique locale, où il n'était finalement pas allé.
Ah oui, et donc ?
Ben, Pierreville était franc-maçon, d'une autre obédience que Michel Barouin, mais c'est dans ce contexte qu'il se serait connu.
Ok.
Tu relances la musique ?
Voilà. Dans les années 70, le parcours de Michel Barouin prend une spectaculaire pente ascendante.
Oui, il est entre autres nommé successivement chef de cabinet des deux présidents de l'Assemblée nationale, puis il se met en disponibilité de la fonction publique en 1974, année où il est nommé président de la GMF, année aussi où est élu Valéry Giscard d'Estaing à la présidence de la République.
Quel rapport ?
VGE a besoin d'un homme de réseau en Afrique pour contrebalancer les réseaux gaullistes de Jacques Faucard.
Et Michel Barouin sera son homme de la France-Afrique.
Exactement. Pendant ce temps, à la tête de la GMF, Barouin en profite pour placer des gens sûrs, d'anciens militaires. Il entreprend de diversifier les investissements jusqu'à en faire une entreprise très rentable, qui rachète par exemple la FNAC en 1985. Il devient l'un des hommes les plus influents de France. Et peu avant sa mort, il annonçait même son intention de racheter TF1.
Ce serait une des causes de sa mort, tu crois ?
Sans doute pas, mais c'était peut-être par contre une sorte de rodomontade.
Oh, joli !
Rodomontade ?
Ouais.
C'est un mot qui existe, tu sais.
Ah, je sais, il faudrait l'utiliser plus souvent d'ailleurs, t'as raison.
Merci. En fait, l'homme se croyait traqué, en particulier depuis la mort de sa fille Véronique. En avril 86, elle a été happée par une voiture dont on n'a jamais retrouvé le conducteur.
Pourquoi est-ce qu'on s'en serait pris à lui et à sa famille ?
C'est ce qu'a cherché à découvrir Dominique Lorenz, une jeune journaliste qui a suivi la piste Barouin en Afrique. Dans son livre « Une guerre », publié en 1997, elle fait un lien entre sa mort et la vente d'armes ou d'uranium entre la France, l'Iran, l'Irak et la République du Congo.
Waouh, une grosse histoire.
Oui, mais qui n'a jamais été prouvée. En tout cas, en 1987, Michel Barouin est un homme qui compte. En pleine cohabitation, il a réussi l'exploit de rester très lié à Jacques Chirac, tout en étant un intime de François Mitterrand.
Signe de souplesse ?
Oui, ou d'opportunisme.
Ah, signe sûrement aussi. D'influence.
Incontestablement. Si bien que notre collègue Jean-Marie Sterkel, tout comme le juge Germain Sangelin, contacté par la journaliste Dominique Lorenz, croit désormais dur comme fer que Barouin visait la présidentielle de 1995. Écoutons-le à ce sujet.
La mort de Michel Barouin, on ne sait pas dans quelles conditions l'avion volait à 3000 mètres d'altitude. Il a explosé. On ne sait pas pourquoi, il n'y a jamais eu de vraie enquête. Et l'hypothèse qui ressort, c'est que des élections de 88, tout le monde s'était dit c'est foutu, Mitterrand va être réélu. Et on préparait déjà pour les élections de 1995 un nouvel homme politique entre la droite et la gauche, côté humaniste. Et cet homme, c'était Barouin. Le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas si c'est la mort de Barouin est un crime ou pas.
Céline, qu'est-ce que tout ça a à voir avec Pierreville encore ? Je sais, ça devient un peu ma question fétiche, mais tu comprends.
Tu fais bien de demander, Emmanuel. En fait, voilà, quelques années avant ces circonstances dramatiques, Michel Barouin a créé une structure appelée Fondation de l'Homme Citoyen. Une structure où transitait beaucoup d'argent. Et devine qui en était le trésorier ?
Pierreville.
Excellente réponse, encore une fois.
Encore une fois, c'était facile. Et à quoi servait cette fondation, juste ?
Le juge Sangelin en était convaincu. La Fondation de l'Homme Citoyen servait à amasser des fonds en vue de la candidature de Michel Barouin à la présidence de la République.
Alors Céline, qui était vraiment Pierreville ?
Eh bien, comme on l'a dit dans le premier épisode, il avait deux visages. Hein. L'un, celui d'un directeur de laboratoire d'analyse qui avait réussi, l'autre, lié à des opérations plus spéciales.
Dès le début d'ailleurs, le juge Sangelin avait repéré l'ombre des services spéciaux dans ce dossier.
Oui, mais ça reste encore flou de ce côté-là. Ce qui est connu, c'est que Pierreville gérait les fonds d'une organisation maçonnique internationale, le CLIPSAS.
Le CLIP quoi ?
Le CLIPSAS, c'est une organisation maçonnique créée sur la base de l'appel de Strasbourg, lancée en janvier 61. En unissant plusieurs loges, il s'agissait de faire contrepoids à l'influence en anglo-saxonne. Ces loges seront donc francophones, avec bien entendu des représentants en Afrique, en particulier chez les chefs d'État.
Bien entendu.
Et tout cela était à l'initiative notamment du Grand Orient de France.
Dont faisait partie Barouin.
Tu vois que tu suis.
Ah, t'en doutais ?
Bien sûr que non. Surtout que maintenant, on suit à nouveau la piste de l'argent.
Souvent la meilleure.
Eh oui.
Parce que tout le monde en veut.
C'est ça. Et c'est pour ça aussi que le juge Sangelin envoie des inspecteurs à Saint-Martin.
Saint-Martin, l'île des Caraïbes ?
Oui, c'est ça. Là, la GMF a procédé à d'importantes opérations d'achat et de revente de terrain.
Et Pierreville était sur place.
Oui, ça s'est établi. On sait même qu'il y avait reçu des menaces de mort.
Ah oui ?
Oui.
J'imagine qu'on ne sait pas pourquoi.
Non, une fois encore, l'enquête n'a mené à rien. Mais il y a de fortes présomptions qu'il y allait pour transférer des fonds au service de Barouin.
Bon, comme tu dis, en réalité, on en sait rien. rien. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était pas pour faire du tourisme.
Pas seulement, en tout cas. Jean-Marie Storkel a d'ailleurs sa petite idée là-dessus. On l'écoute ?
On l'écoute.
On s'est rendu compte que Barouin avait un plan. La GMF a perdu 3 milliards de francs dans un complexe hôtelier à l'île Saint-Martin. Le juge Sangelin envoie les gendarmes de la brigade de recherche de Mulhouse enquêter à Saint-Martin. Et c'est là qu'ils établissent que Pierre Wild travaillait là-bas aussi, également pour Michel Barouin, et qu'il était menacé de mort. On retrouve aussi un compte en Suisse, l'argent était géré apparemment par Pierre Wild, sur un fonds qui s'appelait la Fondation de l'Homme Citoyen. Et c'était un trésor de guerre qui devait permettre aussi de financer la campagne aux élections présidentielles de Michel Barouin en 1995.
Dis donc, Céline, il aimait bien Pierre Wild, les longs voyages comme ça. Hein.
Tu penses à la compagnie.air et à l'Amérique du Sud ?
On peut rien te cacher.
Oh si, on peut me cacher plein de choses. Hein. J'ai deux enfants qui écoutent ce podcast, si tu vois ce que je veux dire.
Et je vois, c'est des fois plus simple de se retrouver dans le labyrinthe des enquêtes que dans le dédale des stratégies d'un enfant.
Ouais, pas souvent.
Donc l'Amérique du Sud, c'était pour la beauté des voyages équitables, hors des sentiers battus.
Non, ça c'était la version de son ami rêveur, le Mulhousien Maurice Freund. Le fondateur de Point.air a toujours pu compter sur Pierre Wild pour soutenir son projet de compagnie aérienne.
Pierre Wild, un ami fidèle.
Sans doute, mais assez cachotier, même avec ses proches.
Ce qui paraît parfois prudent.
En effet, mais tout de même, Maurice Freund évoque un élément troublant lorsqu'il est interviewé par les journalistes peu après la mort de son ami. Il leur dit, je cite, qu'en 1977-78, un ressortissant suisse avait réussi à obtenir les numéros de compte en Suisse de nombreux Français, dont des Mulhousiens. Cet homme avait fait chanter les possesseurs de ses comptes, mais grâce à ses relations, Pierre Wild avait réussi à épingler le maître chanteur qui menaçait de livrer ses listes aux autorités françaises.
Et Pierre Wild faisait partie de ces Mulhousiens concernés ?
Probablement. En tout cas, il s'est senti suffisamment concerné pour se prêter au jeu des autorités suisses qui lui ont demandé de servir d'appât.
Et ça a marché ?
Oui, l'employé de la fiduciaire d'où provenaient ces listes a finalement été arrêté et condamné par les autorités suisses. Ce qui explique peut-être pourquoi Pierre Wild a eu à sa disposition un bureau au sein des locaux de cette même fiduciaire à Bâle.
Ah oui, voilà un directeur de laboratoire de Mulhouse qui a une chambre forte et un coffre-fort chez lui et un bureau dans une fiduciaire à Bâle, juste de l'autre côté de la frontière.
Là où on profite du secret bancaire.
Et est-ce qu'on sait en quoi Pierre Wild était concerné par cette fiduciaire ?
Oui.
Et tu vas pas nous faire durer le suspense encore, n'est-ce pas ?
Non, allez, cette fois je te le dis. La fiduciaire en question hébergeait les comptes de la Fondation de l'Homme Citoyen.
La Fondation de Barouin.
Exactement. Le juge Sangelin a longtemps soupçonné que Barouin, par l'intermédiaire de Pierre Wild, faisait transiter de l'argent vers la Fondation de l'Homme Citoyen. De l'argent provenant par exemple de la contrebande de cigarettes très lucrative à l'époque. Et peut-être aussi de la drogue.
Ah carrément.
Ben, on sait déjà que l'homme avait pas mal de contacts en Amérique du Sud.
Ah oui, ok, mais ça va rien dire. Moi aussi, j'aime bien l'Amérique du Sud.
Oui, mais toi, c'est plutôt la salsa que t'aimes. C'est quand même plus ça, ton style.
Pas quoi, mon style ?
Ben, ton style, quoi, plus tranquille.
Ah ben, n'importe quoi. Alors là, je pourrais très bien être du style qui aime la drogue, hein, figure-toi.
Oui, c'est ça. Mais en fait, toi, t'aimes plutôt la salsa.
Ouais, c'est vrai.
Change pas, hein, surtout.
T'inquiète pas, de toute façon, c'est un peu tard. Hein. Mais du coup, t'es sûr pour cette histoire de drogue ? Ça me semble assez énorme.
À vrai dire, ce ne sont que des hypothèses. Mais le juge et le journaliste ne sont pas les seuls à l'envisager. Le jour où on a retrouvé le corps de Pierre Wild, des policiers ont contrôlé un véhicule garé à proximité, une Jaguar, avec des hommes à l'intérieur. La voiture a démarré aussitôt.
Ah bah voilà une piste sérieuse. Pourquoi tu m'en as pas parlé plus tôt ?
Mais parce qu'en fait, cette piste ne mène pas directement au coupable. Déjà, l'immatriculation suisse renvoie vers une Audi.
La Jaguar était donc volée.
Non, non. Jean-Marie Storkel apprendra plus tard, grâce à ses contacts, que la voiture appartenait aux douanes suisses.
Il y avait une histoire de drogue aussi derrière. Entre le vendredi et le lundi, on retrouve le corps de Pierre Wild. Il y avait une voiture, les douanes, dans une Jaguar immatriculée en Suisse, qui planquait autour de la maison. Quand la police a voulu contrôler la voiture est partie à fond la caisse.
Des affaires brassées à l'international, de l'argent en Suisse, voire en Amérique du Sud et en Afrique, la piste des cigarettes et de la drogue, un lien établi avec Michel Barouin. Tous ces éléments étaient donc là, dès le début, sous le nez des enquêteurs.
Encore fallait-il faire le lien. Mais trop rapidement, l'hypothèse Michel Meillard avait tout emporté. En septembre 1997, au moment de prendre sa retraite, le juge Germain Sangelin prononce enfin un non-lieu général dans cette affaire, au grand soulagement de Michel Meillard.
C'est la fin d'une enquête hors norme, comme le rappelle Jean-Marie Storkel.
Je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui nous utilisaient. Ben, Petria, il utilisait Paul Baril pour enquêter. Paul Baril s'est servi de moi. Enfin, moi, j'ai pris contact avec Sangelin. Et puis, il y a eu un peu une contre-enquête à l'enquête officielle de la PJ. Mais ça n'a jamais rien donné non plus. Sangelin est parti à la retraite, il y a eu un non-lieu. Et puis, on en est resté là. C'est vraiment un roman d'espionnage. Enfin, dire c'est du Le Carré, ça nous sort du crime ordinaire. C'est vraiment une affaire où on tire sur une ficelle, il y a trois tiroirs qui s'ouvrent ailleurs. Il y a toujours des pistes, mais finalement, on n'a jamais de vérité absolue là-dessus.
Tout ce temps perdu, et alors 10 ans après, bien sûr, il est trop tard pour reprendre l'enquête.
Oui, mais en réalité, même si les liens avaient été établis plus tôt, je ne suis pas sûre qu'on serait arrivé au bout. Les pistes potentielles étaient au final trop nombreuses et ardues à suivre.
Oh, t'es un peu défaitiste quand même.
Non, réaliste plutôt.
Enfin, tu peux m'expliquer c'est quoi la différence ?
Ah bah, je vais te le dire. La différence, c'est que le défaitiste manque de volonté, alors que le réaliste, c'est quand sa volonté ne sert plus à rien.
Ah, ok. Alors, confirmation en tout cas, c'est toujours toi la plus maligne.
T'en doutais.
On n'a jamais douté.
Allez, arrête.
Si, je te jure, jamais.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.